C'est qu'on proposait de passer le film Stop Garage, ça dure 15 minutes, hein, c'est ce soir, en même temps que le... après la soirée proposée.
Tout à l'heure.
Ce soir, quoi.
Ouais.
21h30.
C'est
le 21h30.
L'année
dernière, il
n'était
pas monté le film.
Ah, oui. C'est un film amusant comme les deux autres qu'on a vu.
et qui dont je trouve important et capital presque de pouvoir dire, enfin, c'est quelque chose qui a été introduit à cette époque-là et qui n'était pas du tout évident pour tout le monde, parce que les trois autres personnes que tu as énumérées ne trouvaient pas du tout ça évident. Et par contre, ces trois autres personnes trouvaient évidentes des choses qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de trouver évidentes. Mais je dirais que jusqu'à maintenant, j'avais presque l'impression d'être le seul à le trouver évident. Par exemple, le lien entre la sensibilité et la pensée. Le fait que la sensibilité soit quelque chose de très proche du fait de penser. Je dis que pour moi, c'est quelque chose que je trouve intuitivement comme évident. Je ne dis pas que c'est quelque chose de logiquement évident. Mais j'ai récemment lu le livre d'un philosophe américain, je ne sais plus son nom, mais bon, qui lui passe des pages à défendre le fait, par exemple, que la pensée, nos pensées, sont des choses que nous ressentons au moment où nous les pensons. C'est-à-dire que ce que nous pensons, c'est une forme du ressenti, même si c'est une forme différente de la lumière ou des choses comme ça. Et le fait même que ce philosophe le défende, d'abord ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un d'autre qui le défendait, mais j'ai l'impression que c'est très rare aujourd'hui. Et que, alors, je trouve que c'est extrêmement important de montrer, pour nous, ça nous donne des arguments, ça nous conforte dans la recherche, même si on est obligé de l'accepter, que disent précisément les philosophes de l'époque, mais j'ai l'impression que ça nous encourage sur le fait de prendre au sérieux les problèmes dont parlaient ces personnes-là, dont j'ai le sentiment que c'est des choses qui n'ont pas du tout été résolues par la science d'aujourd'hui, la philosophie d'aujourd'hui, les prendre au sérieux et à dénicher le fait qu'il y a une thèse de l'époque, qui est celle de Descartes, qui est passée comme étant la thèse évidente, qui est passé comme étant les thèses évidentes, et en même temps on a retenu que ce qu'on a voulu retenir, c'est-à-dire que de Descartes on n'a pas retenu un certain nombre de ses écrits qui paraissent complètement absurdes aujourd'hui, ou son explication dualiste. Son explication dualiste ne paraît plus du tout scientifique aujourd'hui, et pourtant on a retenu globalement les éléments qui arrangent les gens aujourd'hui pour nier, grosso modo, la sensibilité des animaux, etc. Et aussi, je suis très impressionné par le fait de voir des formulations comme celle de Maupertuis, qui étaient en plus des gens extrêmement respectés à l'époque, qui sont extrêmement respectés pour leur pensée intellectuelle, scientifique de l'époque, aboutir à des conclusions, mais de voir qu'ils disent pratiquement la même chose que Bentham. En fait, cette phrase. On est même pas obligé de supposer que c'est une âme d'un humain pour considérer que la douleur, elle importe, quoi. Et aussi de voir que, d'une certaine façon, il y a un certain nombre de débats qu'on a aujourd'hui, on l'a plus spécifiquement en tant qu'antispéciste, qu'on a du mal à faire passer aujourd'hui, y compris dans la mouvance animaliste, et que j'ai l'impression que Maupertuis, il avait un peu le même problème quand il disait, écoutez, c'est bien gentil, enfin, je vais plus répéter ce que dit Agnès, parce que par rapport au pythagoricien, c'est bien gentil l'histoire de métempsychose, de réincarnation, mais que quand même, vous ne prenez pas en compte les animaux pour eux-mêmes, quoi. Et j'ai l'impression que, enfin, moi, je me bats beaucoup aujourd'hui contre des gens qui trouvent toutes les raisons pour ne pas manger la viande, sauf. C'est des animaux même, enfin, je trouve remarquable ce parallèle. Voilà. Je vais vous parler pour ne pas poser de questions. Mais...
Moi, je vais poser une question par rapport à Descartes. J'avais lu justement que l'animal machine, enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, je pense que c'était des données sur Thomas d'Aquin qui parle déjà de. Qui compare un animal à une horloge. Est-ce
qu'il y a une distinction entre les deux, ou est-ce que c'est finalement la pré-pensée de Descartes avec du copier-coller? Tu vois, j'ai connu vraiment la pensée de Thomas d'Aquin, alors je ne peux pas te dire ce qu'il pensait, mais il s'agissait d'un cadre philosophique totalement différent, il s'agissait de l'aristotélisme dont j'ai parlé, alors. je ne sais pas dans quel sens il disait que les animaux étaient des horloges, mais je suppose que c'était juste une métaphore, parce qu'il était aristotélicien, donc il était supposé croire dans les sens psychiques. Et tu vois, Descartes, c'est une philosophie totalement différente de la philosophie qu'il avait avant. Alors, moi, je crois que c'est simplement une conclusion logique de sa métaphysique, de son dualisme. Si tu divises de la réalité en deux, s'il y a les humains d'une partie, tu ne peux pas mettre les animaux, sauf que dans l'autre partie. En fait, c'est pour ça que Bayle disait que l'âme de l'animal, c'était un des objets les plus difficiles à expliquer, qui donnait tous les problèmes à la philosophie de l'âge, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que faire de l'âme des animaux ou la mettre. C'est pour ça qu'il dit qu'elle est comme l'âme humaine, ou dans notre état. Alors, désolé, je n'ai pas vraiment répondu à ta question.
Est-ce que tu peux, enfin c'est une question qui n'est pas en rapport avec tout ça, mais est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à cette époque-là, à Descartes et à cette ensemble des choses?
Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie de l'esprit. Alors, j'avais l'intention de continuer à l'étudier. Après, par hasard, j'ai rencontré un prof qui, par contre, étude la philosophie des Lumières. Alors, j'ai préparé un cours mémoire sur la théorie des animaux-machines. Et alors, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais lu dans les ouvrages contemporains de la philosophie de l'esprit était déjà impliqué dans le débat à l'âge moderne. Alors, je me suis dit, pourquoi chercher des arguments contre les personnes qui aujourd'hui disent que les animaux ne sont pas sensibles, ces choses. Pourquoi chercher des nouveaux arguments quand on l'a déjà développé dans le passé? Alors,
question par rapport à Descartes. Souvent dans les sur certains sites, tout comme des tracts pour les animaux, on voit contrairement à Descartes qui disait que les animaux ne souffrent pas, mais souvent cette phrase qui revient, ça date de Descartes qu'on a dit que les animaux ne souffraient pas, mais c'est eux qui souffrent. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce qu'il y a répondu là, il me semble avoir lu il y a quelque temps un passage de Discours de la méthode où il parle des animaux. Et j'ai parti à un sentiment très clair, je n'ai pas assez de temps à réfléchir beaucoup dessus, mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas si net, que ce n'est pas qu'il dit qu'il ne souffre pas, ou qu'il n'aime pas non plus, qu'il ne ressent pas la douleur, mais c'est plutôt qu'ils n'ont pas conscience d'eux, qu'ils ont respect de l'âme, mais sans parler de ça. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne dit pas qu'il souffre, mais qu'il ne se rend pas compte qu'il souffre? Est-ce que c'est un peu ça qui est derrière?
Tu vois, elle est difficile trouver des passages où Descartes s'exprime clairement à ce sujet. On a seulement des passages dans différents ouvrages, dans sa correspondance, alors on est obligé à tirer les conclusions de sa philosophie. Donc tu ne peux pas trouver un endroit où il dit explicitement qu'il ne souffre pas, mais selon moi, c'est une conclusion logique, parce que la souffrance implique la conscience. Et comme la conscience, c'est pour seulement dans l'esprit, dans la chose qu'il pense, il est évident, même il ne pense pas, il n'a pas de conscience, il ne souffre pas vraiment, véritablement. Alors que c'est là, après sa mort, on fait beaucoup d'expériences sur les animaux en disant qu'ils ne souffrent pas. Il le disait explicitement. Je crois que Tom Braden a cité un passage dans Les droits des animaux où on parle de ce philosophe, ce sont des sciences qui étaient pas royales, faisaient des expériences avec les chiens. Il disait que que les cris des chats étaient seulement une réaction mécanique. Mais non, tu ne vas pas trouver rien de précis à la philosophie, dans les textes, les ouvrages de Descartes.
Mais j'ai entendu un parcours au contraire qui parlait qu'il ressentait de la douleur, ou du moins qu'il y avait de la douleur dans les corps des animaux. Il semble même, moi, au contraire, avoir lu ou compris de manière explicite Descartes attribuait la douleur, les capacités de douleur, la conscience dans les animaux.
Tu as
vu ? J'ai cru, non, mais c'est.
Le problème est que Descartes avait de la difficulté à expliquer les sensations, la sensibilité. En fait, c'était le grand problème de sa philosophie. Alors, peut-être il a écrit que les animaux ont peur, mais il n'arrivait pas à donner une explication cohérente dans les cas du dualisme. C'est un problème ouvert dans la philosophie de Descartes. Alors, peut-être qu'il y a des endroits où il écrit quelque chose pareil, mais lui-même, il ne savait pas vraiment comment expliquer la sensibilité. C'est le problème de la relation, de la connexion entre le corps et l'âme. Il s'agit de deux choses tellement différentes. Il a tellement visé la réalité qu'il n'arrivait plus à expliquer le lien entre la matière et l'esprit. Alors, cela a été un problème.
Pour terminer, si effectivement Descartes n'a pas dit explicitement que les animaux ne souffrent pas, ou même s'il y a quelques traces de notions de douleur, ou de peur, ou de quelques émotions chez les animaux, comme quelque chose de possible, je trouve que ce serait important aussi en fait, de mettre en avant, plutôt que ce que l'on fait habituellement, de dire Descartes a dit qu'il ne souffrait pas, c'est une donnée, ça paraît bien évident, alors que même si on peut affaiblir la position cartésienne pour en montrer qu'elle n'est finalement même pas si clair sur le sujet du fait que je ne souffre pas, je
pense que c'est un peu. Il y a quand même un passage qui est connu de Descartes qui dit ma philosophie n'est pas méchante avec les animaux, elle est plutôt gentille avec les gens qui mangent la viande. Donc s'il considérait ça, c'est bien qu'il considérait que ça justifiait le fait de manger de la viande et donc que les animaux. Je ne vois pas comment sa position peut être comprise comme justifiant de manger les animaux, si ce n'est pas par le fait qu'elle disait que les animaux ne sont pas sensibles. Sinon, il pourrait justifier de manger les animaux en disant ils ne sont pas créés à l'image de Dieu ou quelque chose comme ça, mais ce serait un autre discours. Si c'est sur sa philosophie qui base cette conclusion, c'est bien que. Ne les considère pas comme sensibles, en tout cas pas sensibles au sens où nous on le considère. Comme ressentant une vraie douleur.
Il semble qu'il y a un autre passage qui va dans le même sens où il dit que sa philosophie ôte ce épineux problème de la souffrance animale au niveau de la.
Pour
les chrétiens. Parce que pour les chrétiens, il y a la souffrance après la chute, mais la chute, ça concerne les humains et. C'est quelque chose qui doit être, comment est-ce qu'on dit, il doit y avoir rédemption ensuite, etc. Mais les animaux, dans ce cadre-là, on comprend difficilement pourquoi ils souffrent. Et il me semble qu'il disait ça aussi. Que oui. Ça,
c'est je crois que c'était moins franche. Oui. Il était en philosophe cartésien, il suivit la philosophie de Descartes, alors il essayait de justifier. Parce que tu vois, tout le monde était étonné, choqué par la philosophie de Descartes au sujet des animaux, parce que même si, vous voyez, les gens mangeaient la viande, les gens étaient les animaux, mais de toute façon, le fait que les animaux n'avaient pas une âme, qu'ils n'étaient pas sensibles, c'était quand même choquant pour les gens. Alors, beaucoup de gens ont critiqué. Il y a eu un débat énorme sur ça, et presque tous les philosophes à l'âge moderne ont fait des remarques sur cette question, soit du côté traditionnel de l'aristotélisme, soit sur le côté des nouveaux courants philosophiques. Et même Voltaire, par exemple, il a écrit un article du dictionnaire philosophique sur sur l'âme des bêtes. Tous les philosophes ont fait des remarques sur ça parce que c'était vraiment un énorme débat.
Le texte que tu as trouvé, j'ai écouté rapidement un livre de Singer sur les animaux dans la philosophie continentale, quelque chose comme ça, en gros, la carte sur la philosophie française, allemande, italienne, des traces de position de fleurs sur les animaux, et en gros, d'ici, ça va être plus dur à faire parce que j'ai pas trouvé grand chose et ce que j'ai trouvé est assez affligeant. Parler plus attentivement, mais que des passages que tu as cités là s'y trouvent. Je ne suis pas plus convaincu que ce soit le cas qui m'a été donné. Est-ce que c'est des recherches difficiles que tu as trouver des citations qui ont été à voir comme une maladie de cette vidéo?
Il y a des ouvrages de critiques qui résument tout le débat sur l'environnement. Il y a un texte en anglais qui s'appelle From this machine to man machine, je vais vous donner des références si vous êtes intéressé. Je crois qu'il s'est forcément dans le lieu. Et alors, il y a beaucoup de matériel là. Il y a aussi des autres ouvrages à ce sujet, mais celui-là, c'est le premier que j'ai lu. Il y a beaucoup de références, de bibliographies. Voilà. Après, c'était mon professeur qui m'a donné des conseils sur les ouvrages à lire, même s'il sympathise, il n'est pas vraiment antispéciste, il n'est pas végétarien, mais s'il sympathise, alors il m'a indiqué les ouvrages les plus intéressants au sujet des animaux. Mais sauf que pour la lettrerie, et pour Descartes, il s'agit des textes qui sont difficiles à trouver. On le trouve seulement dans la bibliothèque, le dictionnaire de B, ce sont plusieurs volumes, ou peut-être il y a quelque anthologie de B, mais je ne sais pas s'il y a l'article sur les animaux. Mauberti aussi, c'est seulement dans la bibliothèque.
C'est celui qui a accordé une sensibilité à tout en fait, hein. C'est une espèce de proto-sensibilité que vous accordez ou une sensibilité pleine, quoi?
Des sensibilités
pleine, ou c'est quelque chose qui une sensibilité différente de celle que pouvait avoir un organisme organisé? Enfin, je veux dire, parce qu'il tire des conséquences morales sur la consommation de viande. Est-ce qu'il en tire aussi, en tirer de la même façon sur la consommation de la, est-ce que la consommation des plantes peut poser aussi un souci ou quelque chose comme ça?
Alors,
parce que s'il y a une sensibilité.
Non, là, c'est la même sensibilité, c'est tout simplement un rassemblage de perceptions alimentaires dans un organisme entière, mais c'est le même, il n'y a pas de différence essentielle entre la sensibilité d'un minéral et la sensibilité de l'homme. Je crois qu'il fait des analogies, alors il fait des remarques sur la sensibilité des animaux, tout simplement parce que les animaux sont très semblables à nous, c'est pour ça. Alors il croit que la façon dont les animaux sont sensibles, très semblables à la façon dont nous sommes sensibles. Alors c'est pour ça, je crois qu'il il fait des remarques sur le plan de la morale aussi, mais il ne fait pas le même pour les végétaux, pour les minéraux, bien évidemment.
Finalement, c'est pas si ça. Il y aurait plusieurs façons d'être sensible. Il y aurait plusieurs façons d'être sensible.
Oui, il dit que la sensibilité des minéraux est une sensibilité sourde, comme endormie, là où la sensibilité des organismes, des animaux, est une sensibilité fluide.
Tu vois? Ah oui, il fait donc une différence.
Oui. Mais pas au niveau de l'essence, tu vois. C'est la même propriété qui a des différents degrés.
Que du coup ça ressemble vachement à la maîtrise, lui, il disait que la sensibilité, elle apparaissait au-delà d'une certaine complexité d'organisation.
Oui, oui.
Très proche, en fait. Je veux dire, d'un côté, il y a toujours une sensibilité endormie qui se révèle au bout d'une certaine complexité. Les deux, il y a quelque chose qui est un peu pas très satisfaisant, enfin, je ne sais pas si c'est faux, mais cette notion de complexité, quoi. Que la sensibilité, elle apparaît ou elle se réveille au-delà d'une certaine complexité de l'organisation des molécules, quoi. Est-ce qu'ils, du coup, ils se sont posés un peu ces questions de... Enfin, moi, ça me vient tout de suite à l'esprit de créer une machine qui soit assez complexe, un automate, etc., qui, du coup, il suffit qu'elle soit assez complexe pour qu'il y ait une conscience, une sensibilité, un robot, quoi. Un automate qui devienne conscient que c'est
qu'il
sont...
S'il est fait de matière vivante, oui, c'est possible qu'il est sensible comme ça. Un automate qui est fait de matière organique, pourquoi pas?
Pour un début.
Oui, mais...
Et moi, dans ton exposé sur la maîtrise, il y a plusieurs choses qui pose problème, hein, que je n'arrive pas à comprendre. Tu dis qu'il se passe entre une matière brute qui est vendue, simplement, sa propriété c'est d'être vendue, et une matière vivante qui en plus est douée d'une force motrice, qu'il appelle irrigation, et de sensation. Et c'est deux matières qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles sont complètement différentes, ou c'est la même matière, mais.
C'est la même matière au niveau. Au niveau ontologique, c'est la même matière, parce qu'il était matérialiste, alors il existe seulement une substance, c'est la matière. Les différences dépendent de différents niveaux d'organisation, tout simplement. Alors, quand la matière inerte s'organise dans des formes particulièrement complexes, elle arrive à voir des nouvelles propriétés qu'elle n'avait pas avant. Mais tu vois, il s'agit d'hypothèses un peu de fantaisie philosophique, mais
oui,
c'était des tentatives de résoudre les problèmes que Descartes avait ouverts, d'expliquer la différence entre matière vivante et matière inerte, ce qui Descartes n'arrivait pas à faire. Alors, on essayait de trouver une propriété.
C'est quand même aussi l'explication qui est restée aujourd'hui.
Oui, la complexité.
Voilà, avec des propriétés émergentes, tout comme ça.
Oui,
c'est fantaisiste,
c'est
mais
ça.
En tout cas, c'est. Ah, moi, je trouve ça. Je vois pas comment la complexité peut expliquer la sensibilité, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un point de test qui est prouvé.
Oui, qui est complexe.
C'est pas une sorte de dualisme, cette séparation du organique et pas organique.
Du dualisme?
Oui, enfin, il se revendique d'un monisme, c'est ça?
Oui.
Et finalement, il fait une séparation entre deux types de matière, quelque part.
Parce que
tout à l'heure, si c'est fait, un automatisme est fait de matière organique, ça pourrait être senti, mais si c'est la complexité simplement qui fait la différence, je veux dire, il y a plus d'organique que d'organique et de pas organique. Soit il y a deux choses de nature différente, soit il n'y en a pas. Soit il n'y a qu'une chose, qu'une matière.
Il n'y a qu'une matière qui a des propriétés différentes.
Donc si on revient au bout de l'hypothèse de faire un automate, il n'y a pas la question de se poser si c'est avec des matières organiques ou pas. C'est juste la complexité des molécules assemblées, enfin, de l'organisme qu'on va créer. Mais c'est un automate. Un automate.
Alors, je ne suis pas sûre que j'ai compris ta question. Tu veux dire que les corps organiques sont plutôt des automates, sont quand même des automates?
Non, mais est-ce que ce qui se revendique d'un monisme n'est pas finalement une espèce de dualisme déguisé, quoi?
Tu crois? Mais non. Non, parce que tu vois, dans l'ancienne philosophie, il y avait différentes substances qui étaient le même que les espèces. Les espèces étaient des substances différentes parce qu'il avait des essences différentes. Alors la réalité était, il y avait différentes substances dans la réalité. Après, Descartes a dit qu'il n'y en a que deux substances au niveau de l'essence, alors la chose attendue, la chose qui pense, là où les matérialistes disaient qu'il n'y avait qu'une substance. Au niveau de l'essence, c'était le même. C'est un peu difficile de comprendre ce concept de substance parce que c'est un mot que nous n'utilisons plus, mais si tu penses. Si tu penses les espèces d'animaux, alors à l'âge ancien, on croyait qu'il s'agissait d'essences différentes pour chaque animal, là où maintenant nous croyons que c'est la même matière qui s'organise dans un individu différent, mais c'est la même matière. Et ce n'était pas comme ça dans l'âge ancien. C'est pour ça que pour la maîtrise, il s'agit d'un monisme, absolument d'un monisme, parce que c'est la même matière dans l'adolescence.
Parce que moi, j'avais une autre question, la seconde question que j'avais par rapport à la maîtrise, c'est qu'à un moment donné, tu fais une citation de ce qu'il dit, et sa citation, c'est « La nature nous a tous créés uniquement pour être heureux ». Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il dit ça, c'est une façon de parler parce que tout le monde disait ça et qu'il ne sait pas comment s'exprimer, ou est-ce qu'il pense réellement, ou est-ce qu'il pense vraiment qu'il y a quelque part quelque chose qui s'appelle la nature, qui crée les choses avec une idée de pourquoi elle les crée, dans ce cas-là c'est pour qu'elle soit heureuse, hein. Mais donc qu'il y a quelque chose qui crée, avec une idée derrière, avec une finalité.
Alors,
et ça ne va pas bien dans ma tête.
Non, mais c'est un sujet intéressant et je ne l'ai pas développé parce qu'il n'y avait pas de temps, mais j'étais sûre que tu étais intéressée. Alors, la maîtrise commence pour croire qu'il y a une loi naturelle morale, alors il y a un bien et un mal pour tous les êtres. Et ce qui est remarquable, qu'il croit que les animaux aussi comprennent cette loi. C'est l'opinion qu'il développe dans la machine. Dans une œuvre suivante, il change d'avis, il est influencé par la philosophie de Picture, qui disait qu'il y a un bien individuel. Alors, il dit que chaque individu, pour arriver à son bonheur, doit suivre sa propre nature, mais il ne s'agit pas d'une nature, d'une entité supérieure, universelle. Il s'agit de sa propre nature. Alors, chaque individu a ses propres biens, ses propres mots, sa façon d'être heureux, sa façon d'être malheureux. Alors, il faut que chacun se connaisse moi-même pour arriver à trouver le bonheur dans la vie. Alors, le concept de nature est différent. Il s'agit d'une nature individualisée.
Oui, mais là, quand même, il dit la nature nous a tous créés. C'est pas ma nature m'a créé uniquement pour être heureux. Il dit la nature nous a tous créés. C'est-à-dire que
oui, ça
a l'air d'être une
totalité. C'est un passage tiré de La Machine. Oui. Après, il a un autre ouvrage qui s'appelle Antisénèque, ou Discours sur le bonheur, où il développe une argumentation différente. Il décrit les. Cette morale hédoniste est très individualiste, où chacun a le droit de suivre ses propres passions, ses propres inclinations. Et tu vois, il y a un problème au niveau de la politique, parce qu'il arrivait à dire que les criminels aussi étaient heureux dans leurs crimes, et c'était leur nature. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la politique? Et donc, il y avait un problème. On n'arrivait pas à trouver un équilibre entre le bonheur individuel et le bonheur de la société. c'est un peu comme Sade. Là où les autres philosophes des Lumières, ils croyaient que le bien de l'individu était le bien de la société, et en fait, il était détesté aussi par les Lumières.
Mais je reviens à ma question quand même, parce que je ne comprends toujours pas comment il pouvait dire dans son premier livre, on parle plus du second, que la nature nous a tous créés uniquement pour être heureux, s'il était matérialiste.
Pourquoi
il pouvait, tu as dit, comment il pouvait dire cette phrase, la nature nous a tous créés pour quelque chose,
pour être heureux.
Toi, tu dis, dans le premier livre, il disait qu'il y avait une sorte de loi morale naturelle, une loi naturelle.
C'est une loi immanente, une loi. C'était pas une loi transcendante, c'était dans la nature des choses. Oui, c'était du naturalisme encore.
Il était baigné dans une société naturelle. C'est peut-être une façon de formuler.
Difficile de formuler des choses qui sont
expliquer peut-être. Ouais. Mais pourquoi c'est incompatible.
Et ben, parce que si la matière, si il définit la matière brute comme étant étendue, elle est étendue, mais il ne dit pas qu'elle a une finalité derrière elle. Alors comment ça se fait qu'on arrive à une sorte de totalité qui est capable de faire des choses dans ce moment? Ça me semble contradictoire.
Tu dis que cette chose-là est nécessaire au départ.
Mais c'est le mot pour qui dit la nature, mais pas. Enfin, il est habitué aux objets, la nature et nous. La nature, nous, nous a créé pour quelque chose. Donc, après, la phrase ne dit pas nous avons le but d'être heureux, c'est-à-dire que nous avons envie d'être heureux, c'est le but de quoi nous faisons cuire les spaghettis et pas des cailloux, c'est pour être heureux. Il dit la nature nous a créé, donc que la nature préexisterait et aurait une finalité qui est que nous soyons heureux. Ta phrase formulée comme ça dit ça.
Oui, la nature nous donne les moyens pour être heureux. Il ne faut pas aller chercher le côté spirituel, dans la sagesse, dans le détachement de son corps. C'est ça, la nature est la matière. Alors, c'est. Le signifié de la phrase est qu'on trouve dans son propre corps le moyen d'être heureux. Non, c'est une interprétation. Essaye toujours.
Je vais revenir sur un petit peu ce que je disais par rapport à cette catégorie intermédiaire de la sensibilité non sensible de Descartes. Tu opposes Descartes à Aristote, à la philosophie aristotélicienne de l'époque, mais j'ai l'impression que cette espèce de catégorie de sensible non sensible, ça ressemble beaucoup à l'âme sensitive d'Aristote. Enfin, c'est pas que ça ressemble beaucoup, mais que ça occupe le même espace permettant de dire que les animaux ne sont quand même pas comme les cailloux ou les plantes, et de dire ce qui paraît peut-être évident, que les animaux sont sensibles, sans leur accorder la sensibilité à un niveau supérieur. Bon, c'était pas... Enfin, mais disons,
tu veux dire que la sensibilité de Descartes est semblable à la sensibilité?
Oui, ou que ce que je critiquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée d'une catégorie intermédiaire et qui est très bien critiquée, je crois, effectivement, avec un raisonnement qui me semble. C'est transparent de dire si l'âme est matérielle, dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi l'âme humaine ne serait pas matérielle, c'est-à-dire que la matière est capable d'être sensible, soit elle est spirituelle, dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'âme des animaux est spirituelle aussi, on peut avoir une catégorie intermédiaire, c'est deux choses. Ce raisonnement-là, il s'applique autant, il peut s'appliquer à Aristote, mais d'une certaine façon, il s'applique aussi à Descartes. Quoi. Et que cette catégorie intermédiaire, qui est encore restée aujourd'hui, que les gens disent, les animaux sentent la douleur sans souffrance, ou les animaux sentent la nociception sans douleur, ou cette catégorie intermédiaire est encore restée, mais j'ai l'impression que, elle remonte à Descartes d'une certaine façon, mais j'ai l'impression qu'elle remonte aussi à Aristote. Il me semble que Thomas d'Aquin disait aussi des choses dans le genre que les animaux ont une âme, que c'est une âme matérielle et mortelle, ce qui semble aussi contradictoire par rapport à la notion même d'âme qu'on avait à l'époque, mais pas très bien. Et que donc finalement de ce côté-là, Descartes n'a pas forcément innové autant que ça.
Moi, je crois que la différence entre la sensibilité de Descartes et une sensibilité non sensible, et l'art sensitif d'Aristote se trouve dans le fait que l'art sensitif est capable de voir la connaissance, selon Aristote. Là où, selon Descartes, les animaux, j'essayais de l'expliquer avec le schéma, les animaux, les êtres qui n'ont pas la chose qu'ils pensent, ne connaissent rien. Même au niveau physique, ils ne connaissent rien parce qu'ils n'ont pas la conscience, ils ne s'aperçoivent de rien. Là où pour Aristote, les animaux arrivent à connaître les objets singuliers. Parce qu'il arrive, la sensibilité est un processus de la connaissance qui marche au niveau physique. Alors on peut arriver à connaître des objets singuliers à travers les sens et pas à faire des raisonnements universaux. Là où pour Descartes, les animaux ne connaissent rien. C'est ça la différence.
D'une certaine façon, il était plus antispéciste qu'Aristote. On dit que Descartes, c'est quelqu'un qui était très contre les animaux. Dans un sens, il était antispéciste parce qu'il disait, il considérait que tous les êtres sensibles, réellement sensibles, ont une importance morale. Et selon les êtres sensibles, c'est uniquement les humains. Alors que jusque-là, Aristote, c'était les animaux ont une âme sensitive, ils ressentent les choses et dans un sens beaucoup plus plein. S'il y a eu des débats, si la position de Descartes a fait débat, bien que jusque-là on considérait que les animaux ressentaient quand même les choses, en un sens beaucoup plus plein que Descartes, ils ressentaient vraiment la douleur et que donc les gens jusque-là étaient vraiment spécistes, dans le sens qu'ils pensaient que leur bœuf, même si le bœuf ressent de la douleur, ce n'est pas important. Mais Descartes, il disait non, le bœuf ne ressent pas de douleur, et que c'est pour ça que ce n'est pas important. Et donc en fait, les quatre philosophes...
Je n'y avais jamais pensé, mais oui, c'est cohérent. Il y a de la logique. Mais par contre,
c'est pas valable pour Aristote, parce qu'Aristote, par exemple, il n'a jamais posé de problème par rapport à l'esclavage, alors qu'il faisait clairement le lien entre l'esclavage et puis l'esclavage humain et l'esclavage des animaux, alors qu'ils n'avaient pas les mêmes âmes. Mais il s'est pas posé de question morale là-dessus. Donc c'est indépendant de la sensibilité.
C'est pour avoir une question. Il n'a pas posé de question morale par rapport à l'esclavage des humains.
Oui.
Mais parce qu'il pensait que les esclaves n'avaient pas une âme raisonnable. Donc il croyait qu'ils étaient presque comme des animaux.
C'était à leur place là où ils étaient.
Oui, c'est vrai qu'il l'a dit aux enfants.
Développer cette idée-là le ressenti et penser.
Alors, vous pensez que, étant matérialiste, la maîtrise pour vertu aussi, et bien, il n'indique pas au voir comment je suis matérialiste, mais tu vois, on arrive à le croire qu'il était, en fait, il était matérialiste. Alors, on ne pensait pas qu'il y avait la nécessité d'expliquer la pensée au niveau spirituel. Là où la pensée ancienne disait qu'il y a une différence entre les jugements sur les objets singuliers et les abstractions des jugements singuliers et les jugements universels. Alors, si tu fais un jugement universel, tu fais une abstraction. Tu ne dis pas ce chien est noir, ce chien est capable, mais tu dis tous les chiens, alors tu te formes une idée. Là, on croyait que c'était quelque chose de pas matériel. Mais si on refuse le spiritualisme, on arrive à croire que penser, c'est tout simplement faire des connexions entre des idées qui ont une origine matérielle. C'est pour ça qu'ils pensent que si un être est insensible, s'il arrive à avoir des idées singulières, il peut aussi faire des connexions.
S'il arrive à avoir des idées singulières.
Mm-hmm. C'est-à-dire percevoir l'objet, percevoir à se rendre
compte. Se rendre compte qu'il y a un objet, avoir une idée de l'objet, la forme, la couleur, alors c'est déjà une forme de pensée.
Parce que moi je me mets dans l'état d'esprit où je vais en discuter avec d'autres personnes, et pas forcément convaincues, et on oppose souvent l'idée justement du ressenti et du raisonné. Enfin et là, j'arrive pas à m'enlever les pinceaux, on ne peut pas être clair par rapport à ça. Sur le fait que d'une part, il y a en effet la perception qui est de l'ordre de la perception. De la forme d'un objet, de sa couleur par exemple, alors ça serait ça quelque chose de l'ordre du ressenti, de la perception, et puis après d'un raisonnement, des connexions qu'on pourrait se faire entre les choses. Mm-hmm. Et ça c'est une suite logique en fait pour ces philosophes-là.
Est-ce qu'il y a des exemples
que tu vois, il y avait des philosophes comme Descartes même qui pensaient que nos idées n'arrivent pas par les sens. Ils s'appelaient rationalistes, c'était les idées innées. Alors on arrive à se souvenir, comme dans la pensée de Platon, on arrive à se souvenir des idées qui sont déjà dans notre esprit. Là où les philosophes dont j'ai parlé pensaient que les idées arrivent au moyen des sens, alors le processus de la connaissance a une origine matérielle.
Est-ce que ces philosophes donnent des exemples concrets avec des animaux particuliers, de dire voilà, un cochon, peut-être qu'il pense comme ça, il ressent ci, il ressent ça, est-ce qu'il y a des traces aussi?
Oui, il y a beaucoup d'anecdotes chez les philosophes qui croient que les animaux arrivent à avoir des connaissances. Par exemple, le chien qui se brûle avec le feu, il ne va pas répéter l'action parce qu'il fait un raisonnement abstrait. Il se dit, une fois il se brûle, la deuxième fois il se brûle, la troisième il se brûle, alors après il va jamais plus s'approcher au fait parce qu'il a fait un jugement abstrait. Il a dit le feu singulier brûle, alors tout le feu brûle. C'est un exemple. C'est là que Aristote ne croyait pas que les animaux arrivaient à faire ça.
Ce sont des raisonnements très simples.
En fait, oui. En fait, c'était la critique qu'on faisait aux aristotéliciens parce qu'ils critiquaient Descartes en disant que les animaux ont des comportements complexes, comme ce que je viens de dire, alors qu'ils ont des idées. Mais alors, on leur disait, si vous disiez que les animaux ont des idées particulières, des idées singulières, alors on arrive à dire qu'ils ont aussi des idées abstraites. Alors, votre critique amène plus loin que vous entendez, que vous voulez. Tu vois, je critique, c'est un peu.
Pas très bien. Tu dis, c'est une critique des.
Alors, Bé critiquait les aristotéliciens, oui. En disant. Vous critiquez Descartes en donnant des exemples des comportements complexes d'animaux. Mais votre critique prouve trop.
Oui.
Elle prouve que les animaux arrivent à faire des choses semblables à des choses des humains.
Donc c'est possible.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a
que tu vois, j'ai pas pris note parce que. Ouais, il y a une personne qui avait. Ça reprend les mêmes félicitations que tu as proposées. Donc moi, je vais prendre ça.
Parce que si tu vois que c'est.
Il y a aussi des normes avec la violence.
C'est la sylactique dont tu parles.
Ça générique, donc ça reste un petit peu moins les. Ça générique, donc ça reste un petit peu moins les.
Vous demandez le lieu, parce que j'ai quand même des médicaments.
Il y a du lactose dedans.
Oui, oui, mais justement, je me dis, si vous hésitez, en
général, j'ai pas de
solution, quel médicament, forcément.
Là, j'ai pris ça. Je me
rends compte, alors. C'est bien ça, s'il y a des trucs qui m'intéressent.
Ouais, non, mais c'est pas. Un...
Alors,
jamais posé la
lundi 8 août, aujourd'hui. Mardi, l'expérimentation animale pour Franck.
Ah, ça, je veux le faire.
Esclavage humain animal, évidemment, pour les tous, si vous pas le lâcher.
C'est le matin,
c'est matin, après-midi, soir. Demain, je vous conseille pas. Après, la construction de l'animalité chez Buffon, c'est le B. Faune sauvage et par contre,
je suis étonné que les végans ne fussent pas plus de
ça, je peux faire un truc, c'est
comme mercredi midi, tu pourras faire. Et c'est ça, ça t'intéresse.
Tu n'arrêteras d'être à l'époque. Ouais, c'est pas un truc. Alors, si, moi, j'ai
bah, avec ça, j'ai parlé de ça, et je vois un homme d'appel, je pense, c'est la femme. C'est pas une femme, c'est un
oui, je revérifie, mais je crois que c'est ça. Oui, oui.
Oui, c'est
la même chose.
Alors, c'est
plus
simple.
En dehors des œdèmes, oui, on est des sept mecs, une allergie, on est dans le dans le
bébé. Une sept de mecs, une allergie, on est dans le
bébé. Ah ouais, c'est
ça. Donc, j'ai une allergie.
Ah, c'est de la colle, je crois qu'il y a quelqu'un qui a des bavettes sur le manche.
Ah, c'est bien, vide de pop. Quelle heure il est?
Il est parti 6h30.